Maintenant, j'aimerais que nous ouvrons la parole de Dieu pour voir dans 2 Timothée chapitre 2 et verset 2. 2 Timothée chapitre 2 et verset 2. En réalité, je crois que je l'ai projeté, si je me souviens bien. Oui. Alors, il dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Il y a un musicien philharmonique de la ville de Mexico. Il a dit que les meilleurs instruments de bois sont faits, et je ne m'y connais vraiment pas dans la musique, je faisais des blagues quand je parlais d'avoir enseigné à Joël à chanter, là. Mais les meilleurs instruments de bois sont faits d'un bois qui a pu vieillir naturellement afin d'enlever toute humidité. Et puis, il dit, il faut faire vieillir le bois pendant 80 ans. Et ensuite, une fois qu'on a fabriqué l'instrument, bien, il faut le jouer pendant encore 80 ans pour que l'instrument soit à son meilleur. Alors, moi, je réponds pas de ça, là. Je m'y connais vraiment pas. Mais ça veut dire que la personne qui a fabriqué l'instrument, il était probablement pas né quand le bois a commencé à se préparer. Et puis, il verra jamais l'instrument à son meilleur. Il travaille pour le futur. C'est un peu comme ça l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu dans le domaine de la formation. On pense à l'avenir. Maintenant, ce matin, Benoît nous a invités à prier, « Oui, Seigneur, viens bientôt. » Et nous le disons de tout cœur, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous pouvons être sûrs que le Seigneur revient d'ici quelques jours ou quelques années? Nous l'anticipons et ça peut arriver. Et on voit aller le monde puis on dit, ouf, quoi d'autre, hein? De l'autre côté, nous ne savons vraiment pas combien de générations peuvent continuer. Alors nous vivons comme si le Seigneur peut venir aujourd'hui, mais nous travaillons en même temps pour les générations futures. Si on ne le faisait pas, on fermerait les écoles. Alors, nous formons, nous devons former des gens pour pouvoir continuer l'œuvre du Seigneur dans les générations futures. Le Seigneur demande que nous soyons fidèles dans cela. L'histoire de Timothée est comme ça, hein? Et ton histoire est comme ça aussi en passant. C'est toujours intéressant de savoir comment un chrétien est venu au Seigneur. Généralement, c'est l'influence de quelqu'un d'autre qui a été influencé encore par un autre. Et de même pour les ouvriers dans leur formation aussi. Timothée a été influencé par la foi de sa grand-mère, de sa mère, pour venir à la foi dans le Seigneur. Mais en tant qu'ouvrier du Seigneur, il y a eu la formation de Paul. Et il avait la responsabilité de passer cette formation à d'autres. Alors, j'aimerais qu'on regarde juste ce premier verset dans ce texte. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Les deux premiers mots sont assez importants. Surprenant, on dirait, non, c'est « fortifie-toi ». Oui, mais les deux premiers mots aussi sont très importants. « Toi donc. » Parce que ces mots-là combattre une hérésie qui est entrée dans nos églises de l'association. Une hérésie grave. C'est l'hérésie qui s'appelle « quelqu'un de vrai ». J'ai entendu parler de cette hérésie-là, l'hérésie de « quelqu'un de vrai ». Hein? Peut-être vous avez entendu aujourd'hui. Quelqu'un dit « Hey, vous avez pensé, quelqu'un devrait faire telle chose. » Hein? Ou il faudrait bien que quelqu'un fasse. Alors, Paul, pour combattre ça, il dit, « Toi, donc. » Et chaque fois que les mots « Hey, quelqu'un devrait » viennent dans ton esprit, que les paroles de Paul viennent à ton esprit en même temps. « Toi, donc. » D'accord? C'est important. Et puis, il dit, fortifie-toi dans la grâce, maintenant, qui est en Jésus-Christ. Et ça aussi, c'est important. On a besoin de la force. Mais pourquoi se fortifier? Quel est le but? Vous savez, ce monsieur ici, là, ça avance trop vite, là. Voyons. Ah, OK, on est revenu. Ce monsieur ici, là, il est fort. C'est impressionnant. Fait un beau show, n'est-ce pas? On peut bien se demander, oui, mais à qu'est-ce que ça sert? Pas nécessairement si utile que ça, à part de juste faire un show. J'haïrais pas ça, pouvoir montrer mes beaux muscles, mais pas ici, mais je veux dire, mais j'en ai pas à montrer. Mais là, par exemple, c'est plus qu'un show, hein? C'est utile. On n'a même pas besoin du CAA si on a des muscles comme ça. Alors, ça sert à quoi? Et il y a eu quelques fois que j'avoue que ça m'aurait été bien utile d'être musclé de main. Mais je ne vous raconterai pas les détails, mais vous pouvez demander à Lise. Alors, mais vous savez, c'est dans un but, c'est pour accomplir la mission de Dieu. La mission que Dieu nous a donnée, une grande mission. Et la mission que Dieu nous a donnée, bien, exige une certaine condition. Il dit, ce que tu as, on le voit tout dans ce verset 2, ce que tu as entendu de moi. Alors, la condition pour accomplir la mission de pouvoir penser à d'autres, la parole de Dieu, la formation, tout le reste, c'est d'avoir reçu, d'avoir entendu, d'avoir appris. Nous ne pouvons pas penser à d'autres ce que nous n'avons pas reçu. Il dit, le modèle... Je pèse le mauvais bouton. Ah! Besoin d'aide. On ne peut pas penser à d'autres ce qu'on n'a pas reçu. Il dit, le modèle des saines paroles, dans chapitre 1, verset 13. Il parle dans 1, verset 14, le bon dépôt. Ça, c'est ce qu'on a reçu. Et c'est important de recevoir. Vous savez, il y a des gens qui veulent servir le Seigneur, mais ils ne sont pas prêts à être formés. Ils ne sont pas prêts à recevoir. Ils ne sont pas prêts à apprendre. Toute notre vie, nous devons continuellement être en train d'apprendre de nouveau. Apprendre. Et puis, le Seigneur met toujours des gens sur notre chemin pour aider dans notre formation. À quel âge est-ce qu'on a fini d'être formé par Dieu? On n'a jamais fini. Moi, j'apprends des nouvelles choses. J'ai 62 ans maintenant. Mais j'apprends. Et je compte continuer à apprendre aussi longtemps que Dieu me donne un cerveau pour pouvoir apprendre des choses. Et puis, j'espère que vous profitez de toutes les opportunités d'apprendre plus, de vous développer pour pouvoir être capable de mieux servir le Seigneur. Pas tous de la même manière, et vous apprenez pas tous de la même manière, mais d'être en train de profiter des opportunités d'apprendre. Il dit en présence de beaucoup de témoins, et ça c'est juste une petite... en présence de beaucoup de témoins, c'est parce que, vous savez, c'est pas en secret qu'on apprend. Il y a peut-être des gens qui viennent dire, « Hey, j'ai fait des découvertes dans la parole de Dieu que je vais t'expliquer, mais parle-en pas à personne. » Ben, parle-moi-en pas non plus. OK? Ça, c'est la meilleure réponse. Des sectes travaillent comme ça. Évidemment, il y a la formation personne à personne, mais ce qui se donne en personne, à seul, ça a été donné publiquement aussi. D'accord? Pas de secret. Mais la préparation précède toujours la présentation. Jean-Baptiste, quand il a commencé son ministère, combien d'années est-ce qu'il avait été formé par Dieu? Jésus a passé 30 ans avant de commencer son ministère en tant qu'homme. Et puis, C'est l'exemple. Pourquoi est-ce que nous n'irions pas chercher de la formation, d'être préparés par Dieu et préparés par les hommes et les femmes que Dieu a mis sur notre chemin pour pouvoir mieux le servir? C'est seulement en permettant à l'Esprit de Dieu de nous aiguiser que nos vies vont avoir ce coupant que Dieu peut utiliser dans sa main habile. Maintenant, si bien la mission de Dieu exige qu'on ait reçu quelque chose, la mission de Dieu implique aussi un processus. Confie-le à des hommes fidèles. Timothée doit prendre ce que Paul a versé dans la vie et il doit le verser dans les vies d'autres personnes. Ça, c'est ce que Paul lui ordonne de faire. Il y a deux mots essentiels dans cette phrase-ci. Et puis, le premier mot, c'est « confie ». Je ne vous donnerai pas un cours de grec ce matin, mais « confie ». En plus de vouloir dire « confier », ça veut aussi dire « déposer ». C'est le verbe qui va avec le substantif « dépôt ». Qui servait le bon dépôt dans le premier chapitre, au verset 14. Alors, la question importante ici est la manière dans laquelle la vérité est transférée d'un disciple à l'autre. Si c'est déposé. Maintenant, je ne sais pas s'il y en a ici qui n'ont jamais été faire un dépôt à la banque. On dépose de l'argent à la banque. Quand vous avez déposé de l'argent à la banque, est-ce que vous aviez donné votre argent? Et tu dis, ah, merci de nous avoir donné ça. Je pense que vous l'avez retiré vite. Hein? C'était pas donné. C'était déposé. C'était confié. Hein? C'était confié. C'était pas donné. Et vous pensez que la parole de Dieu vous a été donnée juste comme ça? Vous pensez que la formation que vous avez eue vous a été donnée pour que vous le gardiez tout seul comme ça? Non, c'est un dépôt. Un dépôt. Ça vous a été confié pour que vous le passiez à d'autres. Ça, c'est le but. Les vérités éternelles, la parole incomparable de Dieu, ils ne doivent pas être traités à la légère comme si elles devaient être, c'était égal à d'autres informations intéressantes quelconques là, qu'on peut partager ou non. Hein? Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante d'après Hébreux 1.3. Et cette même parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants dans Hébreux 4.12. C'est spécial la parole de Dieu. Ça doit être transmis et retransmis à d'autres. Ça nous a été confié, déposé, pas juste donné pour qu'on le garde juste pour nous. En ce jour, quand le Seigneur revient, la question brûlante ne sera pas « Combien de connaissances avais-tu de ma parole? » C'est pas ça qu'il va se demander. La question brûlante, et je suis pas en train d'essayer de décrire comment les choses se feront, mais je donne ça en image, mais jusqu'à quel point as-tu obéi à ce que tu savais? Et une partie de cette obéissance, c'est justement de transmettre ce que nous avons reçu. Juste en passant, la vraie question, c'est, as-tu reçu le cadeau gratuit de mon fils? C'est ça qui est la chose. Mais en ce qui concerne notre service et notre manière de servir le Seigneur, est-ce que vraiment nous avons été fidèles ou est-ce qu'on a juste reçu des connaissances puis, moi j'en sais des affaires? Moi, je suis capable de me retrouver dans ma Bible, puis je peux te répondre, je te le dis, quand dans une discussion, et je peux te donner, je peux te piner comme il faut, parce que tu ne pourras jamais me répondre, parce que j'ai toutes les réponses. Tu sais? Ah, et puis, c'est que ça donne, ça? Si tu fais rien avec? Hein? Si tu fais rien avec, c'est pas utile, mais si tu l'emploies pour servir. Alors, continuons. C'est pour ça que la grande commission, c'est d'y aller et leur enseigner à obéir à tout ce que je vous ai commandé. L'autre mot à observer, c'est fidèle. Oui. On transmet cela à des personnes fidèles. On parle ici de formation, on ne parle pas de l'Évangile. D'accord? Jésus a parlé des quatre terres où on sème la semence. Il y en avait juste une des quatre terres qui était la bonne terre. Alors, l'Évangile, on ne dit pas, bon, ben lui, correct, on va lui expliquer le salut. Non, non. Ça, c'est pour tout le monde. Et puis, Dieu s'arrange avec les résultats. Mais, quand il s'agit de former quelqu'un pour servir le Seigneur, bon, bien, on cherche quelqu'un qui déjà montre une certaine fidélité. Es-tu fidèle dans ce que tu fais, dans ce que tu as? Eh bien, si oui, j'espère que quelqu'un va voir ça et va dire, « Hey, j'aimerais le former pour faire ça. » N'est-ce pas? Et tu peux être en train de penser comme ça à d'autres. N'importe quelle chose que tu fais dans l'Église, que tu sois le pasteur, que tu sois un musicien, que tu sois quelqu'un qui enseigne l'école du dimanche, que tu sois un comptable pour l'Église, n'importe quel service, ou simplement quelqu'un, quand je dis simplement, c'est la chose la plus importante que l'Église fait, mais quelqu'un qui partage l'Évangile avec des gens autour de toi, et que le Seigneur t'a donné une certaine habileté d'approche. Mais quoi que ce soit que tu fais dans l'Église, c'est un dépôt que tu as pour que tu le passes à d'autres qui apprennent à le faire aussi. Les gens fidèles, juste en passant, des fois on donne des jobs à des gens qui sont pas prêts pantoute. Et puis, mais la préparation importante, surtout, c'est la fidélité. Nous autres, on est portés à regarder le charisme, le talent, l'intellect. Mais ça attire notre attention. Ce qui attire l'attention de Dieu, c'est la fidélité. La fidélité. Qu'est-ce que Dieu pourrait pas faire avec un groupe de personnes fidèles? Fidèles. Il n'y a pas de limite. Est-ce que tu paieras le prix d'une dévotion suprême à Christ et à son œuvre? Vas-tu être satisfait d'une vie de médiocrité, de complaisance en ce qui concerne les choses qui comptent vraiment pour l'éternité? Fidèle pour faire et fidèle pour transmettre à d'autres. Alors, la mission de Dieu, justement, produit un résultat. À des hommes fidèles qui soient capables de le transmettre ou d'enseigner aussi à d'autres. Ça, c'est le produit final du processus, ou le produit continu, je devrais dire, du processus de faire des disciples. Si c'est bien fait, ça va produire des guerriers pour la foi qui vont sortir dans la bataille pour les âmes des hommes. Ils vont s'impliquer eux-mêmes dans le travail d'équipe, d'équiper encore d'autres guerriers pour le conflit. Et c'est comme ça, vraiment, que le processus de reproduction et de multiplication spirituelle se met en marche. Un processus qui a le potentiel d'accomplir le premier commandement qui a jamais été donné aux hommes. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Dans Genèse 1, 28. Ça, c'était donné dans le sens physique, je sais. Mais on peut en voir l'application spirituelle facilement, n'est-ce pas? Et le processus qui est aussi la clé pour accomplir le dernier commandement donné aux hommes avant que Jésus soit monté au ciel, allez, faites de toutes les nations des disciples. Comment on montre que ça faisait-tu du bon sens ce que Jésus a dit aux disciples? À 11 personnes, 11 hommes qui sont là, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'était-tu réaliste, ça? Ça faisait-tu du bon sens? 11 gars? Atteindre toutes les nations du monde? Mais come on! Ah! Mais il y avait un secret. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Deux, il envoie son Saint-Esprit. Et trois, 2 Timothée 2, 2. Ce que tu as reçu de moi, de le transmettre à d'autres, confie-le à d'autres, qui vont à leur place enseigner encore à d'autres. Ça continue. Ça, c'est le secret. Et c'est comme ça que Paul a pu dire, L'Évangile qui a été prêché à toutes les nations sous le ciel. C'est extraordinaire ce que ces 11 hommes ont pu produire. Alors, c'est important de noter que ceux qui enseignent aussi à d'autres, ça les appelle capables. Vous remarquez ça? Oups. Ouais. C'est capable de le faire. C'est quelque chose, ça. Mais capable, ça implique rendu capable. Alors, vous savez, en endurance, j'ai appris un nouveau mot. Je ne l'ai pas appris en Espagne. En Espagne, le mot formation, ça se traduit formation. Au endurance, savez-vous comment il traduit ça? Capacitation. Ah, capacitation. Pas pire. Rendre capable. J'ai dit, ouais! Ça en dit gros là-dessus, n'est-ce pas? C'est que tu cherches pas juste des gens capables, hein? Tu cherches à rendre des personnes capables. Hmm? À les rendre capables. Dieu te donne ce privilège-là. Et de les rendre capables. C'est extraordinaire. Mais je me rappelle, ça faisait quelques mois que je connaissais le Seigneur et je connaissais à peu près rien de la Bible, rien de rien. Je connaissais pas l'église locale trop encore. Le pasteur, il me passe un livre. Il dit, tiens, j'aimerais que tu enseignes une classe d'école de dimanche cette année. Alors, j'avais été sauvé en fin juin. J'ai connu l'église seulement en août. Et là, en septembre, il me passe un livre pour enseigner l'école de dimanche. OK, ça fait plaisir. C'est le fun, je veux servir, moi. Gloire à Dieu. Amen. Hmm? Quelques mois plus tard, le pasteur, il me demande, il dit... Jean, il dit, peux-tu me passer le livre que je t'ai passé pour l'enseignement de l'école de dimanche? Oui, il est un peu... où que c'est? Et mes amis, ça fait des mois que je ne l'ai pas vu, je ne sais pas trop ce qui est. Pasteur, il dit, ça fait des mois que tu ne l'as pas vu? Veux-tu m'expliquer qu'est-ce que tu faisais? J'ai dit, dans le livre que vous m'avez donné, je comprenais pas grand-chose là-dedans, ça fait que j'ai juste pris les paraboles de Jésus, puis j'enseignais ça aux enfants, t'sais. Bien, le pasteur n'était pas trop content. En passant, c'est un homme qui est une bénédiction dans ma vie de bien des manières. Mais sur ce point-là, il n'a pas été très content. Mais qu'est-ce que tu voulais attendre de moi? Vous savez, si on donne un job, on les forme. Il faut former. Hmm? Je suis certain que ça se fait ici. J'espère. Oui? Oui, je suis certain que oui. Connaissant les gars qui sont là, mais c'est un engagement envers la qualité, hein, qui va produire éventuellement la quantité. Mais un engagement envers la quantité, ça va finir par produire la médiocrité. Alors, il faut viser vraiment la qualité. Maintenant, nous remarquons que Paul, il dit pas à Timothée exactement comment il doit faire. Comment il doit procéder pour accomplir toute cette œuvre. Il peut avoir beaucoup de différentes méthodes légitimes selon le contexte, le caractère des personnes impliquées, mais ce qu'il faut souligner, c'est le principe. N'importe comment c'est fait, aussi longtemps que ce soit fait, et c'est justement ce que nous désirons établir en Amérique latine. Exactement ce qui a été établi ici, au Québec, et précisément ici, à Trois-Rivières, l'Église, ça ne s'est pas fait seule. Hein? Et cette continuation de formation, j'espère que vous êtes impliqués d'une façon ou l'autre, à être formés et de former d'autres. C'est tellement important. C'est un privilège qu'on a. C'est pour ça qu'on a l'Église. On vient ensemble parce qu'on ne peut pas se former de seul, puis on ne peut pas former d'autres seuls. On vient ensemble pour ça. Et quelle bénédiction Dieu nous donne la possibilité de faire partie de cette œuvre merveilleuse. À toi et moi. Qu'est-ce que je fais là-dedans, moi? Ça ne fait pas de bon sens. Mais le Seigneur dit, oui, je veux que tu le fasses, toi. Et c'est ce qu'il dit à toi aussi. Mais quel privilège! Est-ce qu'on va se passer de ça? L'importance de 2 Timothée 2, 1 et 2 pour nos vies, ça ne peut pas être exagéré. Et c'est vraiment la vie qui dure, parce que c'est par elle que nous donnons nos vies à ce qui dure à toujours. La parole de Dieu, les âmes des hommes. Timothée devait devenir un pont par lequel la parole de Dieu, hein, ce que tu as reçu, ce que tu as entendu, pouvait envahir les âmes des hommes. Confie-le à des hommes fidèles et qui pouvaient enseigner d'autres aussi. Il devait s'impliquer à commencer une avalanche spirituelle dont la force se sentirait pour des générations au-delà de sa propre vie. Et à cause du fait que Timothée a été fidèle, nous sommes ici ce matin, en grande partie pour cela. Et toi, mon ami, est-ce que tu cherches quelque chose vraiment qui va donner un but pour ta vie, qui fera vraiment que ta vie compte? Que tu aies 10 ans ou que tu aies 90 ans, ce message est pour toi. Ta vie peut compter. Si tu dis ce que j'ai reçu, je vais le transmettre. Et je vais voir ce que ce soit transmis aussi. Et je vais chercher à en recevoir plus en passant. Soyons avares de ce côté-là où le mot c'est pas avare, avare, garder pour soi. Affamé, hein? Oui, mais cherchons toujours à en avoir plus. Mais sans avarice, de pouvoir aussi, dans le but de pouvoir donner. Alors, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous faites ça, vous serez comme Abel. Donc, même si, quand il est mort, il parle encore, d'après Hébreux 11:4. Que le Seigneur vous bénisse.